RFI, grand reportage.
Comment la France accueille-t-elle les réfugiés identifiés comme particulièrement vulnérables par le HCR, victimes de la guerre ou d'une histoire migratoire traumatique? Comme d'autres pays d'Europe ou d'Amérique du Nord, la France s'est engagée depuis 2017 à accueillir des personnes déjà réfugiées dans des camps situés dans des zones proches de conflits, syriens réfugiés au Liban ou africains évacués de Libye via le Niger ou réfugiés dans des camps au Tchad. Dans le nord moins touristique de la Dordogne, le maire d'une petite commune rurale a répondu oui à l'appel du gouvernement pour accueillir des familles. Accompagner 6 familles cabossées par la vie n'est pas une chose facile dans une petite ville de 3000 habitants, sans un budget conséquent, dans un désert médical, loin des transports publics et avec peu de travail à offrir. Quand des réfugiés particulièrement vulnérables sont accueillis dans des zones rurales en France, un grand reportage de Catherine Guillardy, réalisation Pierre Chaffangeon.
Je m'appelle Cédra, j'ai 13 ans. Je suis syrienne et j'habite en Outron.
Ah ben voilà, 79,5 sur 100. Diplôme d'études de langue française. Wow. Pas mal, hein? Bravo. Bravo.
Bravo, oui. Quel café.
Vous étiez au café.
Vous êtes heureux.
Oui.
Malaykoum salam.
Malaykoum salam.
À Nontron, Brigitte, l'ancienne directrice d'école, a tout de suite répondu à la proposition de l'association départementale qui s'occupait des réfugiés pour venir donner un coup de main quand une famille syrienne s'est installée à Nontron en 2016.
J'étais en retraite, donc je me suis dit c'est l'occasion de. J'étais instite avant, donc voilà, ça me tentait bien de faire de l'accompagnement scolaire. Et je suis allée dans les familles directement pour faire connaissance. Bon, c'était un peu bizarre la première fois parce que l'association a fait faux bond. Je me suis retrouvée toute seule avec les familles qui parlaient arabe. Moi, je parlais pas arabe. Ils parlaient, moi, je parlais français, mais eux ne comprenaient rien. Donc, c'était un peu bizarre. voilà, bon, puis comme je connaissais les enseignants des enfants, j'ai pris contact pour savoir sur quoi il fallait travailler, dans quelle classe étaient les enfants, etc. Donc, j'ai commencé à y aller régulièrement pour donner un petit coup de main sur le plan scolaire le soir.
Les bénévoles jouent un rôle central dans l'accueil des réfugiés en zone rurale. Depuis 2015, l'État demande aux villes et aux villages français de moins de 5000 habitants d'accueillir des réfugiés et demandeurs d'asile pour soulager les territoires où la demande de logement est plus tendue. Nontron, ville de 3000 habitants dans le nord de la Dordogne, moins touristique que le reste du département, accueille donc sa première famille de réfugiés en 2016. Suivront 5 autres familles.
Comme j'étais en contact avec le collège lycée, il m'a dit est-ce que vous ne pouvez pas donner un coup de main? Il y a des Soudanais qui sont arrivés, il y a une dame de République centrafricaine, donc il y a beaucoup d'enfants. Bon là, je ne pouvais plus toute seule, ce n'est pas possible. Donc j'ai fait un appel. Alors mon frère qui était en retraite avait commencé à m'aider déjà. Et donc, quand les Soudanais sont arrivés, bon, ça fait vraiment beaucoup. Et en plus, il faut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de rendez-vous médicaux qui se sont greffés. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que, pas dans l'année de leur arrivée, mais l'année qui a suivi, il y a eu énormément de problèmes de santé. Alors, je pense que c'est le contre-coup de l'installation. Et les personnes n'ayant pas de voiture, il fallait accompagner. Donc, c'était Limoges, Angoulême, Périgueux. Et puis, en plus, il y a une dame qui avait proposé de faire des cours de français. Donc, il fallait garder les enfants des familles, les enfants qui n'étaient pas scolarisés. Donc, il fallait du monde. Donc, ma belle-sœur qui venait de prendre sa retraite est venue. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés. Voilà.
Pour Pascal Bourdeau, maire sortant de Nontron, également vice-président du conseil départemental de Dordogne, accueillir ces réfugiés ne faisait aucun doute.
Je suis issu d'une famille donc de résistants, de gens qui se sont pendant la Deuxième Guerre mondiale se sont engagés donc au niveau à côté de la résistance pour faire de libérer notre France. On est une terre d'asile parce que je vous dis on a accueilli pendant la Deuxième Guerre mondiale donc des Lorrains. Donc je pense que c'est notre devoir en tant que moi en tant qu'élu d'accueillir travail des gens quand ils sont en difficulté, parce que je pense à moi et à ma famille, dans la même situation. Si la France en était en guerre, et j'aimerais bien être accueilli de la même façon dans d'autres pays, quoi. Et aussi par rapport à mes convictions politiques, et aussi parce que j'ai autour de moi des gens qui m'ont accompagné dans ma démarche, des conseillers municipaux, mon équipe municipale qui m'a accompagné.
À Nontron, les conditions sont réunies pour accueillir les familles. Les écoles sont mobilisées, certaines classes sont même sauvées grâce à la vingtaine d'enfants réfugiés. Des navettes sont mises en place vers Périgueux et Angoulême, les deux grandes villes du coin, et les bénévoles s'organisent. L'équipe gérée par Brigitte s'agrandit à une trentaine de personnes, dont 15 très actives.
Près de où vous habitez, le CMS, qu'on appelle le Centre Médico-Social. Non, papa et maman ne sont jamais allés.
Entre les cours de soutien scolaire deux fois par semaine et l'accompagnement aux rendez-vous médicaux ou administratifs dans les grandes villes avoisinantes, Brigitte trouve le temps de monter le dossier de reconnaissance du handicap d'une petite Soudanaise afin qu'elle soit scolarisée avec des horaires aménagés. Elle reprend aussi le dossier du père de la première famille syrienne blessée au pied par un obus. Son dossier a été ouvert par l'association mandatée par l'État, mais en plein milieu de l'année, la salariée était mise en congé de longue durée. Brigitte, puis Marie-Noël.
Oui, bon, je dois quand même avouer une chose, c'est que les associations ont été très, très, très défaillantes. Ça s'est très bien passé au début, et puis un peu à la fois, on les voyait plus. Difficile d'avoir quelqu'un au bout du fil et de résoudre les problèmes, quoi.
C'est vrai qu'au niveau géographique, on est très éloignée, donc forcément pour elle ça faisait beaucoup de distance. Si elle avait des familles à Périgueux, à Nontron, Thiviers, Jumillac, il y a à chaque fois 50 km entre chaque ville. Donc effectivement c'est énorme. Au niveau des assistantes sociales peuvent recevoir les familles, au niveau du logement, au niveau de la demande de RSA, etc. Ils peuvent pas aller trop loin non plus, donc ils comptent toujours sur les bénévoles, parce que le conseil départemental a ses limites. Et puis, il y a toute la population autre. Mais chaque famille a été reçue par une assistante sociale de secteur.
Pas question pour la mairie de Nontron de mettre en place un accompagnement spécifique pour les réfugiés vis-à-vis des autres habitants. L'accompagnement dépend des bonnes volontés et il ne s'agit pas de contrarier ceux qui refusent. Pascal Bourdeau.
Il y a eu un problème sur une famille qui a eu donc un cas grave, qui avait une urgence donc à avoir un rendez-vous, et c'est vrai que j'ai un médecin local qui n'a pas voulu les prendre, et donc il a fallu que je mette à disposition une navette pour aller voir un médecin dans une autre petite commune qui était à côté de Nontron. Je pense pas que ce soit volontaire, mais bon, de refuser, ça m'a choqué quand même, parce qu'il aurait pu entre deux rendez-vous les prendre parce que s'il y avait une urgence. Je préfère pas polémiquer, ça sert à rien de manière. Je préfère être plus constructif que discuter, parce que bon, déjà qu'on a des difficultés nous au niveau de la précarité, donc sur la médecine en milieu rural, donc j'ai pas voulu en discuter avec lui.
Erwan Carabin, adjoint au maire sortant de Nontron, est sur la même ligne.
On peut pas rentrer dans un accompagnement fort. Il faut faire attention. On a des gens qui sont en difficulté dans nos populations, donc on peut pas créer un fossé profond. Donc on est obligé de faire attention à ce qu'on fait. Donc il faut que ce soit identique pour tout le monde. Ensuite, les bénévoles sont libres.
Ne pas prévoir un accompagnement spécifique pour ces réfugiés se comprend pour une petite ville. Mais ces réfugiés sont considérés comme particulièrement vulnérables par le HCR, ce qui leur a permis d'être réinstallés dans un pays sûr. Hicham, dont nous avons changé le prénom, est syrien. Il était déjà réfugié avec sa femme et ses trois enfants dans un camp au Liban.
Du Liban, on est parti pour Paris. On est venu nous chercher. On ne savait pas où on arriverait en France. Puis on est allé à Bordeaux, puis Périgueux, et puis on nous a amenés à Nontron. On a quitté la Syrie en 2013 et on est resté 5 ans au Liban, enregistré par le HCR. On nous a demandé si on était d'accord pour quitter le Liban pour un troisième pays. On a dit oui. Et quand on a demandé dans quel pays, ils nous ont dit qu'ils déposeraient notre dossier dans plusieurs pays et qu'ils nous diraient quand nous serions acceptés. On nous a demandé si on préférerait vivre en ville ou à la campagne. J'ai choisi la campagne car je viens de la campagne. Depuis qu'on habite ici, on est bien intégré et tout se passe bien.
En France, depuis 2018, 10 000 personnes ont été accueillies dans le cadre de ce programme de réinstallation. 7 000 Syriens et 3 000 subsahariens arrivés de camps au Niger ou au Tchad. C'est la première fois que la France accepte de participer à ce programme du HCR. L'État français mandate des associations nationales comme France Terre d'Asile ou Forum Réfugiés COSI ou locales pour accompagner ces réfugiés pendant un an, le temps de les installer dans une zone. Mais la décision de l'État de placer ces réfugiés particulièrement vulnérables dans des zones qui souffrent de désertification médicale surprend. Et les bénévoles, essentiels, ne reçoivent aucune formation pour les accompagner. Brigitte, puis Marie-Noël.
Mentalement, c'était lourd, très très lourd, oui. Faut gérer l'entente entre les bénévoles, quelquefois, c'est pas toujours simple. Des problèmes de santé qui sont, oui, je trouve, lourds à porter quand même, oui. Bon, mais voilà, maintenant ça va, c'est puis leur histoire, oui. Ah, ouais.
Leur histoire, je pense que... Puis les rendez-vous médicaux, bon, on rentre quand même dans l'intimité des gens, quelquefois, hein. C'est pas facile non plus. Sans pouvoir répondre forcément à leur souffrance. Enfin, moi, je travaillais dans le social, donc j'étais plus ou moins préparée, puisque je travaillais au conseil départemental, donc, entre guillemets, j'avais un peu l'habitude déjà, mais bon, voilà, je pense pas qu'on puisse s'habituer à une souffrance comme ça, hein, aussi bien physique que morale. On n'a pas d'accompagnement, c'est entre nous. On se soutient entre nous.
Il y a aussi le problème de la langue. Lorsque l'accompagnement de l'association prend fin après un an pour des raisons budgétaires, les communes doivent prendre le relais. Et ce n'est pas toujours possible. La mairie de Nontron a accepté de souscrire à une association d'interprètes à Paris pour traduire notamment les rendez-vous médicaux.
J'essaie de voir un interprète si c'est possible. C'est la société qui est à Paris. Je les ai appelés tout à l'heure pour leur demander si c'était possible d'avoir un interprète. Donc je vais tenter. On n'a pas réussi l'autre jour pour un rendez-vous médical. Et bon, j'ai eu le numéro par ma fille qui est médecin et qui travaille à Toulouse à un centre de planification familiale. Donc elle m'a dit, ben, je téléphone et j'ai l'interprète que je veux dans la minute qui suit. Donc je vais voir. Comme la mairie a passé une convention, on va voir si ça marche.
Bonjour.
Oui, bonjour. Excusez-moi, j'ai téléphoné tout à l'heure. Je téléphone pour la mairie de Nontron. Pour avoir un interprète qui parle syrien, s'il vous plaît.
C'est la première fois que vous appelez ?
Oui.
Votre fonction ?
Je suis bénévole.
Alors, et donc, en arabe, de Syrie ou une autre langue ?
De Syrie, s'il vous plaît, oui.
Je vous laisse patienter.
Merci.
Vous êtes en communication avec ISM Interprétariat. Ne quittez pas, nous allons vous mettre en relation avec un interprète.
J'espère que ça n'a pas duré 10 minutes.
Son permis, finalement reconnu par les autorités françaises, Hicham peut enfin se rendre à Périgueux pour suivre des cours de français. Les 200 heures payées par l'association mandatée n'ont pas suffi. La maîtrise du français est pourtant une des priorités des dispositifs mis en place par l'État. C'est le même problème pour Aman, un jeune érythréen installé dans la banlieue de Périgueux à 45 km de Nontron. Sa formation a mis du temps à démarrer car sa maîtrise du français était insuffisante, même après 10 mois de prise en charge par l'association mandatée.
Je m'appelle Aman, je suis ici. Je suis venu ici pour la formation électricien. Before I came here, I was in the Niger.
Je suis venu ici pour une formation d'électricien. Avant de venir ici, j'étais au Niger. De l'Érythrée, j'ai été en Libye 2 ans. Le HCR m'a évacué. Dans mon pays, il n'y a pas de liberté pour travailler. Nous devons tous être soldats. Depuis que je suis en France, j'attends tout le temps. J'attends. Tout ce que je veux, c'est apprendre. À Salagnac, le centre d'accueil où j'étais, avant de venir ici, j'ai fait 4 mois de cours de français, mais depuis 6 mois, j'attends. J'ai demandé cette formation d'électricien, alors je suis dans cette école. Je crois que c'est une école. Je ne parle pas vraiment aux gens. Tout ce que je dis, c'est bonjour. J'aimerais partir maintenant parce que mes amis ne sont pas avec moi, plutôt à Paris. Je ne suis pas content parce que j'aime travailler. N'être plus fatigué, c'est ça mon rêve.
Really, I'm not happy because I love work. You're tired more. That is my dream.
Aujourd'hui, il veut quitter le département trop isolé où il se trouve pour trouver du travail et rejoindre d'autres Érythréens rencontrés lors de son errance migratoire qui a duré 6 ans. Aman vit pour l'instant du RSA, des aides de la CAF et de la solidarité du voisinage. Le travail, c'est ce qui a fait partir 4 des 6 familles de Nontron. Seules 2 familles, dont celle d'Hicham, logent toujours dans la petite ville de Dordogne. Les élus regrettent souvent de ne pas être plus associés à cette politique de l'accueil. À Boulazac, à la périphérie de Périgueux, Liliane Gontier, la maire déléguée, affirme que les associations mandatées par l'État ne la préviennent pas quand un réfugié s'installe sur sa commune. Elle a aussi reçu l'injonction de loger des demandeurs d'asile dans un hôtel pas cher à 2 pas de la mairie.
Si on veut vraiment être une vraie terre d'accueil, digne de ce nom, accueillir les populations et faire en sorte que les enfants soient scolarisés, que tout le monde soit bien nourri, bien logé... Il faut plus de moyens, c'est clair. Il faut une autre volonté politique. On nous en parle, mais concrètement, on ne sent pas que ça va jusqu'au bout. C'est inadmissible d'avoir des familles qui sont entassées dans une chambre d'hôtel. Comment ils font pour avoir de la nourriture, de la garder quand il n'y a même pas un frigidaire, puisqu'on est dans une chambre. Donc, ça ne va pas assez loin. Il faut un accueil digne de ce nom. Et dans les communes rurales, parfois les logements sont peut-être plus spacieux, mais il y a le problème de la mobilité. Quoi faire si on ne peut pas bouger ? Déjà, rien que pour aller au supermarché, pour aller se faire soigner, avoir un médecin, la préfecture, comment ils font ? Ça, c'est du concret, c'est basique. On sait très bien que dans certaines communes, des migrants sont repartis parce que... Quoi faire ? Peut-être dans la jungle de Calais, je ne sais pas, mais ils sont repartis alors qu'ils avaient là un espace, à la campagne, c'était plutôt agréable, mais quand il n'y a rien à faire.
Pascal Bourdeau, qui ne s'est pas représenté à la mairie de Nontron, mais doit gérer en attendant le 2e tour, reconnaît qu'il aurait bien accueilli plus de familles.
Moi, j'aurais pu continuer à accueillir des personnes, parce que je pense que l'intégration est beaucoup plus facile en territoire rural, en tout cas qu'en territoire urbain. Ça, j'en suis intimement persuadé. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas stigmatisés, ils sont dans un milieu où tout le monde fait attention à l'autre. Mais aujourd'hui, c'est vrai que l'accompagnement, il a été mal fait, aucune coordination. Au niveau du bailleur social, il n'y avait pas de suivi non plus. En termes d'alphabétisation, on a des difficultés. Pourquoi ? Parce qu'on arrive au bout du dispositif et donc la prise en charge n'existe plus. Donc on nous laisse tomber. Quoi. Je veux dire que soit on met en œuvre les moyens pour pouvoir nous accompagner au maximum et que ces familles soient intégrées. Parce que c'est ça, c'est à double tranchant. Le fait justement qu'on n'aille pas au bout de leur intégration, leur trouver un travail, les aider, les accompagner, c'est jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elles soient autonomes. Tant qu'elles n'ont pas leur autonomie, on ne peut pas les lâcher. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Même si ça coûte un petit peu, je pense que ça on le retrouvera après, de manière, on le retrouvera après, c'est certain.
Quand des réfugiés particulièrement vulnérables sont accueillis dans des zones rurales en France, un grand reportage de Catherine Guilardi, réalisation Pierre Chaffangeon.
Comment ça va chez vous? Comment ça va chez toi? Comment ça va chez vous? Comment ça va chez toi? Comment ça va chez vous? Comment ça va chez toi? Comment ça va chez vous? Comment ça va chez toi?